jusqu'à la fin de l'été, Nantes brille aux couleurs de son festival et nous sommes du voyage. Une 7e édition qui invite le promeneur à suivre la petite ligne verte et sinueuse qui mène aux œuvres savamment disséminées dans la ville. L'occasion de redéfinir les espaces et de proposer aux artistes de les conquérir. C'est en direct du lieu unique, cette ancienne fabrique de biscuits reconvertie en centre de culture contemporaine, que nous dressons aujourd'hui la grande table. C'est ici que se tient jusqu'au 16 septembre Mangasia, une exposition explorant les liens entre la bande dessinée et l'imaginaire du continent asiatique. Une bande dessinée dominée par le manga, dont la gigantesque industrie dissimule parfois les richesses graphiques des pays alentours. La bande dessinée asiatique, support de pop culture, représente aussi un vecteur privilégié de transmission. Transmission de traditions, de folklore et d'histoire nationale encore douloureuse et muette. Puis nous continuerons de parler d'art pictural avec l'artiste plasticien Philippe Ramette qui présente dans le cadre du festival Voyage à Nantes 5 sculptures dans la ville et une exposition photo à aller voir jusqu'au 26 août. Nous allons parler de bande dessinée asiatique avec Paul Gravette, commissaire de l'exposition Mangasia et auteur de l'ouvrage du même nom. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également autour de la table, l'artiste et auteur de bande dessinée Serra. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dont une des planches est aussi exposée pour cette exposition-là. Bonjour à tous les deux. Il y a d'abord ce terme que l'on découvre dans l'exposition, Mangasia, qui est un terme imaginaire, qui serait un territoire imaginaire de la bande dessinée asiatique. Paul Gravette, pourquoi ce choix du mot Mangasia ?
Le mot Mangasia, c'est aussi un néologisme, c'est un nouvel mot que nous avons créé pour expliquer que nous mixons, nous comblons les bandes dessinées japonaises avec les bandes dessinées de beaucoup d'autres pays d'Asie. On fait le balance et on fait moitié manga, bande dessinée japonaise, et moitié bande dessinée asiatique d'autres pays. Une vingtaine de pays, parmi eux les plus grands, comme la Chine et l'Inde, mais aussi les moins connus, comme le Cambodge, par
les
exemple,
Philippines.
Avec notre ami ici, Serra.
Alors, ouais. Serra, c'est vrai que quand on parle de bande dessinée asiatique, on parle beaucoup du manga. C'est en raison notamment de cette industrie assez écrasante, qui représente justement aussi un foyer immense. Pourtant, la bande dessinée, elle se décline en Asie, dans bon nombre de pays. Vous en êtes un exemple. Qu'est-ce que vous pourriez dire de la bande dessinée au Cambodge?
Plutôt qu'écrasante, je dirais qu'elle est rayonnante et pleine de vie.
Ça dépend de quel point de vue on se place, si c'est culturel ou économique.
Absolument. Au Cambodge, la bande dessinée est encore au stade des prémices. Je veux dire par là que j'ai mené un certain nombre de cours et de formations autour de l'écriture et de la bande dessinée. Mais il n'y a pas encore d'industrie, de structure, de presse qui puisse accompagner ces jeunes créateurs. Et pour exister, il leur faut exister en dehors du Cambodge. Je parle des auteurs cambodgiens. Mais bon, c'est une question de temps, j'imagine. Et c'est quelque chose qui un jour émergera aussi.
Alors ce que l'on voit dans cette exposition Paul Gravette Mangasia, c'est que la bande dessinée s'est aussi diversifiée dans ses supports. On part bien sûr du support papier, mais il y a aussi toute cette influence artistique que l'on peut retrouver avant elle, plus traditionnelle, de la lithographie, des influences même qui viennent d'Occident, qui ont métissé finalement cet art de la bande dessinée asiatique.
L'art de la bande dessinée asiatique est vraiment divers, vraiment multiforme, comme vous avez dit. Nous mangeons par exemple des peintures par les propres artistes japonaises, et en même temps nous montrons des choses créées par les gens indigènes de Rajasthan qui créent des choses qui s'appellent kavad. Kavad, c'est une sorte de boîte magique qui s'ouvre et révèle beaucoup de petites cases qui est utilisée comme une sorte de support visuel pour un narrateur live en performance qui explique une histoire plus classique.
Alors, il y a c'est plusieurs un meuble formes. Finalement, c'est un meuble qui se déploie.
C'est une sorte de, un petit meuble, exactement. C'est un petit temple portable, en fait. C'est créé en Rajasthan, en Inde. Et nous avons commissionné deux de ces choses. Un mythique, une histoire mythique. L'autre parle des microfinancements de femmes qui voudraient lancer leur propre entreprise. Et cette petite boîte en bois peintes en couleur avec des petites cases. Ça explique pour eux, avec un narrateur, comment ça se fait. Et je veux introduire un peu sur le Cambodge, la bande dessinée dans le Cambodge.
Oui, d'abord, on va parler un petit peu des arts traditionnels. Oui. C'est rare. Oui. Il y a ces influences traditionnelles. Alors, on parlait de bois peint. Il y a aussi toutes ces traditions et ce folklore, ces contes qui ont été aussi revisités par la bande dessinée asiatique. C'est aussi un élément de transmission de l'histoire.
Oui, bien sûr.
L'histoire traditionnelle peut être parfois difficile à transmettre.
C'est ce que je dis. Actuellement, pour le Cambodge, c'est une situation un peu singulière dans la mesure où le pays sort d'une longue période assez noire de son histoire, où il y a eu une guerre et ensuite un génocide, et une longue période aussi de conflit. Et donc, actuellement, on est dans ce travail de mémoire et on est aussi dans ce travail de défrichage des pans du passé. Donc, la culture, les traditions, ce sont des choses qui se font aussi, notamment par rapport aux livres d'enfants, par rapport aux contes que l'on met en images, mais pas encore en images en bande dessinée, pas en narration visuelle.
Donc là, il y a encore un travail qui est en train de s'accomplir.
Il y a un travail qui est en train de se faire et c'est fantastique de suivre ça là-bas.
Il y a cette idée de cartographier dans l'exposition. Quand on se promène, il y a à la fois des supports bande dessinée, puisque le manga, c'est aussi ça. Ça a été cette déclinaison à travers des supports d'abord télévisuels, puis des supports aussi numériques. Donc ce n'est pas simplement la bande dessinée, un type de bande dessinée, c'est aussi des codes esthétiques, visuels particuliers.
Oui, tu as raison. Oui. En fait, c'est tout un système qui est, bien sûr, a beaucoup d'influence sur les jeunes dessinateurs, surtout. En fait, je sais, en Phnom Penh, il y a actuellement un auteur japonais, un mangaka, qui enseigne les jeunes, surtout les filles, qui aiment beaucoup les mangas, parce qu'ils ont lu Doraemon, par exemple, un classique de manga, traduit, en fait, disponible en Cambodge. Et ainsi, ça encourage une nouvelle génération à venir. Et aussi, nous avons un auteur de Cambodge montré dans cette expo, en plus avec Sarah. Oui, il s'appelle Phum Van Ak. Il n'est pas très connu maintenant, mais son livre a été édité enfin en anglais. Il a été victime d'un kidnapping. Il a cherché du travail. Il était Cambodge, mais il a kidnappé en Thaïlande. Par un marin qui organise des bateaux pêcheurs qui pêchent les thons et il est prisonnier pour presque 3 ans sur ce bateau et ça n'a jamais accosté et à cause de ça il y a eu des cauchemars, des vies horribles et il a enfin échappé et créé un bande dessinée autobiographique que nous montrons quelques planches ici qui explique tout et qui parce qu'il veut exposer ce scandale de trafiquants de peuples comme ça.
Sarah, il y a quelque chose aussi dans la narration que permet justement la bande dessinée de mettre en image des histoires douloureuses aussi. Vous, la planche que l'on découvre dans l'exposition, c'est celle du soldat inconnu. Vous avez écrit aussi ce texte en anglais. Comment est-ce que justement vous racontez cette histoire à la fois une histoire parfois personnelle mais aussi qui recouvre les grands événements historiques qui ont traversé votre pays, événements très douloureux, et comment est-ce que justement ceci s'exporte puisqu'il faut aussi en traduire la langue?
Oui, en fait c'est donc le prochain roman graphique qui sort à la rentrée, Concombre amer, qui a été pensé et écrit en français et traduit donc par mes soins en anglais pour une publication au Cambodge en 2015 dans le journal Cambodia Daily. Et donc, je pense que ce sera une lecture qui, en anglais, fera sens, parce que la plus grande majorité des jeunes au Cambodge, notamment, parlent évidemment anglais plutôt que le français.
Alors, et dans l'autre sens, est-ce que vous imaginez justement que ce soit aussi une manière d'exporter cette histoire-là, d'en parler aussi dans le monde européen ?
Oui, bien sûr, c'est le but.
Donc, justement, comment s'exerce ce mode de transmission-là, visuel, sur une histoire qui est une histoire aussi liée au Cambodge et à cette période-là douloureuse?
Oui, pour faire ce travail, je me suis essentiellement reposé sur un travail de défrichage d'images d'archives, de documents d'époque, de publications dans les journaux, Donc ça a été toute une...
Une enquête ?
Une enquête, absolument, pour essayer de coller au plus près au réel. Et tout ça est matiné, évidemment, donc de regard personnel, dans la mesure où ces années de guerre, je les ai connues, j'ai vécu au Cambodge pendant toutes ces années-là. Donc c'est une symbiose entre un vécu et un travail sur les archives visuelles.
Quand on parle des influences qui ont pu justement toucher aussi la forme de la bande dessinée asiatique au cours de l'histoire, elle est très marquée aussi par la colonisation qu'a pu connaître le continent aussi. Les influences anglaises, américaines, les dominations multiples, les échanges aussi qui se sont manifestés sous la forme d'une sorte d'influence culturelle importante.
L'influence culturelle majeure pour ce qui est de l'étranger dans le Cambodge notamment, c'est la France.
C'est la France,
oui. France
aussi, oui.
Qui a été donc le pays... le Cambodge n'a jamais été une colonie, c'était...
Non, je parlais du continent en général.
Oui, alors le continent, les Américains ont eu leur part.
Leur part, oui. Y compris dans l'influence de la bande dessinée, des super-héros qui aussi sont arrivés dans la bande dessinée japonaise notamment.
Au Japon, mais pas à ma connaissance au Vietnam, pas à ma connaissance au Cambodge, les super-héros n'étaient pas là. C'est les Français qui avaient encore, jusque dans les années, la fin des années 70, une prépondérance visuelle perceptible.
D'où des grandes différences dans la bande dessinée qu'on peut observer dans ces pays-là, au Vietnam, au Cambodge.
Oui, mais aujourd'hui, ils sont très influencés par tout ce qui vient du Japon et de Corée. Et les jeunes générations sont friands ils sont fous de manga, ils adorent ça.
Paul Gravette, on a le sentiment que quand on retrace l'histoire de la bande dessinée asiatique, on retrace aussi l'histoire géopolitique du continent.
Oui, oui, c'est tout lié, bien sûr, parce que le Japon, surtout, a eu un projet impérialiste jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de pays, Corée, Taïwan, d'autres, les Philippines, ont été occupés et, bien sûr, ont eu une grande influence sur la culture, sur la bande dessinée. Mais comme vous avez dit, Mélisse, il y a aussi les influences américaines, qui est vraiment fort. Ça continue à être fort maintenant. C'est une sorte de guerre, en fait, entre les cultures, les comic books super-héros américaines et le manga.
Avec d'autres figures héroïques.
Exactement, un peu comme ça.
Avec d'autres figures héroïques, on va écouter Stéphane Ferrand. C'était dans Mauvais Genre, l'émission sur France Culture, le 26 février 2005. Il va nous parler de ces figures de héros dans le manga.
Les personnages de samouraï, c'est un peu le personnage emblématique du Japon, au même titre que le cow-boy est le personnage emblématique des USA. À la fois une essence morale, un rapport à un certain esprit, un rapport avec le monde et à la vie, la nature aussi. Il y a une noblesse dans la figure du samouraï et aussi dans les problèmes qu'il doit affronter, qu'on peut retrouver parfois dans certaines figures de cow-boy qui gagnent leur noblesse justement à la force de leur colt et des problèmes qu'ils doivent surmonter.
Paul Gravette, c'est à la fois l'histoire du comic américain, mais du comic aussi mis à l'écran par le cinéma hollywoodien. C'est tout ça que l'on retrouve aussi comme influence dans la bande dessinée manga.
Oui, oui. Il y a beaucoup de liens, bien sûr, entre la bande dessinée et le cinéma et d'autres formes de multimédia. Et nous mentionnons, par exemple, beaucoup de dessins animés, mais aussi des films en live qui s'inspirent directement de bande dessinée, ainsi qu'on est connu. Et bien sûr, des choses comme Akira ou Doraemon ou Dragon Ball, choses comme ça. Mais je pense que la chose importante, c'est que Mangazia, ça a toujours basé sur la puissance de la bande dessinée. Ça, c'est le commencement de c'est notre critère que nous trouvons avec une vingtaine de conseillers les meilleures choses, les meilleures bandes, les meilleurs récits, les meilleurs artistes de ce continent de création mangazi. Et nous avons trouvé des choses jusqu'à maintenant pas traduites en anglais ou en français. Et nous espérons que nous pourrons aussi encourager les éditeurs ici en France et mondiale a fait les autorisations à introduire un survol plus plein, plus complet de bande dessinée d'Asie. Parce que pour l'instant, en France, il reste beaucoup, bien sûr, de manga, mais pas beaucoup d'autres pays.
D'autres pays, ouais, alors que exemple, là, on voit des bandes dessinées chinoises, ça
nous manque, je pense. Oui,
cambodgiennes. Sarah, qu'est-ce qu'on peut dire de la conception qu'on peut avoir de la bande dessinée, du manga, mais aussi de l'ensemble des bandes dessinées, plutôt dans le monde asiatique, au Cambodge? Est-ce que, justement, il y a une autre image de ce vecteur-là culturel, ou est-ce que, finalement, il y a cette méfiance qui a pu exister, qui persiste encore parfois un peu en France, sur l'idée que ce serait un art qui doit encore parfois faire ses preuves, ou qui aurait plusieurs types de bandes dessinées, le roman graphique d'un côté un peu porté au nu, et puis une bande dessinée plus populaire, héritée des magazines?
Non, il n'y a pas de méfiance. Au contraire, il y a une adhésion, il y a une fascination pour ces figures de super-héros asiatiques, pour le rythme de lecture spécifique du manga, pour la dynamique qu'engendre aussi cette forme de narration. Mm-hmm. Non, ils sont très portés dessus.
Et justement, sur le vecteur de récit qu'il peut être, ça a pu être aussi utilisé de manière officielle dans des petits livrets. Ça aurait pu être un outil politique aussi, le manga. C'est aussi une manière pour les auteurs de transmettre leur vision géopolitique.
Absolument, sauf que dans un pays comme le Cambodge, il y a encore beaucoup de réticences qu'on a connues dans les années d'après-guerre ici en Europe par rapport à la forme de la bande dessinée, qui est vue comme une sous-littérature, c'est-à-dire comme quelque chose qui n'a pas d'importance. Donc les gens n'ont pas encore conscience de la puissance des images.
Est-ce que le fait qu'elle ait moins d'importance la protège un peu plus de la censure, ou pas du tout, Sarah? Ça pourrait être finalement une arme que de ne pas être un objet dont on se méfie.
Là, il faudra voir ce que les jeunes sauront faire de cette liberté.
Paul Gravette, il y a la question aussi industrielle du manga. Effectivement, le manga comme, disons, objet majoritaire en Asie, en tout cas d'un point de vue des chiffres, ça représente une industrie colossale et phénoménale. Il y a cette dimension économique très forte que l'on voit écrasante, puisque d'autres pays sont représentés, mais on voit quand même que le manga domine, y compris dans l'exposition.
Mm-hmm. Oui, c'est vraiment le Godzilla de la bande dessinée, pas seulement en Asie, les mangas. Mais en même temps, ça reste vraiment ouvert. À mon avis, il y a beaucoup de leçons à apprendre de succès de mangas. C'est qu'ils n'ont pas beaucoup de grands superstars, des vedettes, par exemple. Ici, nous avons Spirou, par exemple, ou Tintin, bien sûr. Mais les personnages qui ont continué les histoires pendant des décennies d'histoires, et qui deviennent, à mon avis, un peu past their sell-by date, un peu fatigués, parce qu'en Japon, ils cherchent toujours les jeunes auteurs et les nouveaux thèmes, les nouvelles histoires qui peuvent parler directement à l'esprit du moment, les questions importantes dans notre société, notre vie. Et c'est à cause de ça que manga est vraiment puissant et peut être un médium peut-être plus flexible que le cinéma ou l'autre forme, parce que ça doit être édité vite et peut être lu vite. Il peut avoir un lien direct et vraiment puissant avec
l'air
lecteur,
du temps.
Avec le temps, et parle de temps immédiatement.
Du coup, ça pose aussi la question de la pérennité, puisqu'on se dit, du coup, il y a peut-être moins de longues séries qui vont perdurer.
Oui,
et
exact.
Qui font aussi
longues séries ou des séries qui ont passé, par exemple.
La particularité d'un objet culturel et artistique, dire qu'il peut durer dans le temps.
Par exemple, Astro Boy, qui est très connu, qui est sur l'affiche ici, il n'y a pas une vingtaine ou une centaine de dessinateurs qui a fait beaucoup d'autres histoires d'Astro Boy. Mais si Astro Boy était français, peut-être belge, peut-être américain, absolument, bien sûr.
Ça fait
nous
rire, Sarah, ce que vous
beaucoup,
dites.
Nous avons eu beaucoup de versions de Astro Boy depuis la fin de Tezuka.
Sarah, ça vous fait rire ce que dit justement Paul Gravette. Pourquoi?
Astro Boy, c'est l'œuvre d'un auteur, Tezuka, auteur majeur au Japon. Et effectivement, il n'y a pas eu de continuité en tant que tel, mais il y a d'autres personnages qui reprennent un peu l'esprit que pouvait véhiculer ce personnage. Même si, effectivement, le manga est beaucoup plus enclin à créer des nouvelles figures porteurs d'histoires et de narrations autres. Mm-hmm. Par exemple, si on réfléchit, mais avec la manga s'est ouvert à l'art culinaire, notamment, en parlant de choses qui n'avaient rien à voir avec le monde de la bande dessinée, et l'a mis en image.
Ça, c'est l'élargissement des thèmes aussi. Le manga, au début, avait des thèmes un peu traditionnels qu'on retrouvait d'un auteur à l'autre, même si chacun avait son univers, et il s'est totalement élargi.
Oui, complètement.
Et je pense que chose importante avec la bande dessinée, et c'est l'exemple de Concombre Amé, de Sarah, ça s'explique aussi, c'est que c'est les images fixées. Nous vivons dans un monde avec tous les smartphones, toutes les images temporaires.
Les images en mouvement,
qui
toujours.
Mouvement, qui, les choses vraiment floues, qui disparaissent tout le fois. Et la puissance de la bande dessinée, c'est que c'est les images qui racontent des choses, qui montrent des choses, mais qui sont imprimées. Ils sont fixés dans un grand bouquin. Le bouquin de Serré est plus de 300 pages. C'est pas un movie. C'est pas un movie de 100 minutes, quelque chose comme ça, qui est flou et diffusé. C'est une sorte de roller coaster ride. C'est une sorte d'expérience comme ça. C'est quelque chose que vous pourrez entrer et rentrer dedans. Et vivre dedans, tu peux animer, tu peux directer, tu peux devenir le personnage. Toutes ces puissances fascinantes de la bande dessinée expliquent pourquoi ça peut faire des choses comme Concombre Amer, qui peut parler des choses difficiles et importantes.
Alors il y a justement Concombre Amer est un bon exemple d'un récit historique qui se retrouve sous une forme qui s'approcherait du roman graphique, plutôt ce qu'on appellerait le roman graphique en France. Est-ce que la bande dessinée asiatique et ce qui est représenté dans cette exposition, c'est la volonté aussi de montrer autre chose que le manga et pourtant, vous reprenez ce terme de mangasia comme s'il fallait toujours apporter cette marque, ce brand qui vient justement justifier cette bande dessinée-là. Les gens viennent parce qu'il y a le manga.
Je pense que le problème avec manga, c'est il y a, comme vous dites, il y a une sorte de cliché de contenu. Nous avons choisi, par exemple, pour l'affiche, pas un Naruto ou One Piece ou quelque chose vraiment connu, parce que nous voulions attirer et intéresser des gens, des grands publics, qui peut-être se méprisent de manga. Je pense que c'est pas pour moi, c'est trop violent, tout stupide, tout ça.
Mais c'est vrai, ouais. C'est pourtant ce qui marche aussi en France, le manga. Un succès phénoménal en France, c'est un
oui,
pays européen.
Ouais, c'est 40% de ventes. Oui,
nous sommes de ventes.
Absolument. Sauf qu'il faut aussi montrer que le manga, ce n'est pas que quelques figures que l'on véhicule dans notre tête, c'est aussi autre chose. Et c'est cette autre chose qui est montrée ici.
C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus divers.
Voilà,
et je pense aussi que nous avons l'avenir de la bande dessinée ici, dans cette expo, parce que c'est peut-être par les mangas. Nous montrons dans les sections multimédia les webtoons. J'ai parlé du problème de la bande dessinée imprimée, c'est les images fixées. Mais en fait, avec le smartphone maintenant en Corée du Sud, il y a 12 millions de lecteurs chaque jour qui lisent ces
sérialisations,
ces histoires vraiment puissantes et attirantes, et en même temps des histoires qui parlent de choses sociales, politiques, choses comme la corruption politique ou l'exploitation de grandes corporations, par exemple. Des choses jamais vues dans d'autres médias en Corée du Sud, mais dans ces webtoons, ça a devenu vraiment un phénomène incroyable.
Sarah, ouais. Est-ce que
ça peut arriver ici? Ouais.
Est-ce que vous, c'est votre volonté en tant qu'auteur que de profiter aussi de cette déclinaison dans divers supports, ou est-ce que vous, justement, en tant qu'artiste, en tant que peintre, en tant que aussi artiste plus traditionnel dans d'autres disciplines, est-ce que vous avez le souhait que on en reste aussi au papier, à la plume, à cette image que vous avez décidé de fixer?
Je suis très attaché au support papier, à l'objet livre, mais je ne suis absolument pas contre tout ce qui va pouvoir être de l'ordre des déclinaisons et de l'exploitation sur d'autres supports de lecture, comme les smartphones, évidemment. Donc c'est quelque chose qui est appréhendé et sollicité par les jeunes. Donc là, pareil, il ne faut pas faire l'impasse dessus. Il faut au contraire voir comment on peut en tirer le meilleur.
On peut imaginer une version digitale de Concombre Amé avec des liens extra, des informations,
des contenus enrichis,
des petits clips vidéo, tout ça,
absolument.
Pour enrichir votre récit. Ouais.
Alors, est-ce que justement, outre la question des supports numériques, etc., ce n'est pas justement l'évolution des thématiques dans la bande dessinée asiatique qui est la plus grande évolution qu'elle a connue ces dernières années? Le fait qu'elle ne soit plus simplement rattachée à un monde qui, depuis ici, apparaîtrait être le monde des super-héros japonais qu'on a pu connaître, des Dragon Ball Z, des jeux vidéo, et qui c'était des avatars de concert qu'on a pu connaître, et puis maintenant qui s'est élargi à des thématiques aussi larges que les autres arts.
Oui, tout à fait. Sauf que, à mon avis, le grand enjeu qui arrive, c'est la multiplication des supports pour pouvoir accéder à la lecture de ces bandes dessinées. C'est là-dessus que ça va se jouer.
Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, c'est nécessaire. Oui, 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 ça arrive.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme tu disais, là, Paul, d'une bande dessinée, on peut avoir une approche plurielle d'appréhension mm-hmm. et de découverte.
C'est seulement cette année que les ventes de e-manga, les mangas digital, est plus que les ventes de mangas en papier. Et le Japon a vraiment un passion pour les choses imprimées.
Son précurseur.
Oui, mais ça indique un changement.
Est-ce que ça dit quelque chose, Paul Gravette, de son public? Est-ce que c'est pas l'art qui peut-être vous dites que c'est celui qui s'adapte peut-être le plus vite? Alors en termes aussi de sujets abordés, est-ce que ça en dit long aussi sur son public qui reste assez jeune et qui finalement suit ces auteurs sur divers supports?
La bande dessinée est un média qui a toujours évolué en fonction des évolutions technologiques. C'est-à-dire que au 19e, enfin, à l'origine des choses, la bande dessinée était pensée par rapport au support presse dans lequel elles étaient publiées. Ensuite, la qualité même des images vont être totalement tributaires par rapport aux capacités des machines à reproduire les couleurs, à jouer des subtilités, des teintes. Et à partir des années 80, quand la reproduction quadrichromie a permis de faire de la couleur directe, a beaucoup bouleversé le paysage éditorial en France.
C'est changer les collaborations artistiques aussi, oui.
Donc tout ça fait que la bande dessinée est un média vivant qui n'arrête pas de trouver des formes en adéquation avec son temps. Et demain, je pense qu'effectivement, la part papier et la part visuelle, audiovisuelle ou... des choses restent à être inventées par rapport à l'accès qu'auront les gens par rapport à ça. C'est-à-dire que si le smartphone est un outil aujourd'hui très, qui est à la portée de tous, c'est par ce biais-là que la bande dessinée peut rayonner à nouveau. Donc, je ne vois pas de contradiction entre l'un et l'autre. Il faut que, au contraire, il faut que ça s'adapte.
Non, mais pourtant, on a bien vu que, par exemple, pour le livre numérique a plus ou moins bien marché selon les cultures, selon les pays, Paul Gravette.
Oui, vous avez raison. C'est pas
le succès en Angleterre est beaucoup plus important que celui en France.
Oui, on parle de la vente basse en Angleterre pour les e-books. Nous savons, nous sommes toujours attirés par les choses imprimées, les livres, une sorte de magie. Tu peux ranger, explorer tout. Mais la bande dessinée est un médium vraiment fascinant parce qu'il y a un siècle, ça a anticipé le cinéma. Nous n'avons pas tous les cuttings, tous les close-ups, tous les systèmes de cinéma. Et en fait, maintenant, plus récemment, ça a aussi anticipé l'Internet, tout le système de comme nous lisons, comme nous explorons des pages, les icônes, tout ça. Tout ce langage est toujours anticipé par la bande dessinée. Et c'est vraiment une forme vraiment flexible. Et pour l'instant, je pense que nous sommes toujours au commencement. C'est pas comme beaucoup d'autres formes qui sont inventées déjà. Nous savons, oui, ça c'est la musique, ça c'est le cinéma. Pour la bande dessinée, elle a eu une histoire vraiment un peu limité et un peu trappé dans une image juvénile, un peu seulement pour les jeunes, seulement pour les grandes aventures. Et c'est seulement récemment que depuis les années 60 toujours, depuis que nous avons maintenant beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de sujets traités dans la bande dessinée. Et beaucoup plus
question.
De femmes aussi, pas seulement les hommes.
C'est
ouvert à tout. Pour s'exprimer, oui.
Et dans justement ce qu'on disait sur la question géopolitique, est-ce que ce n'est pas une guerre économique aussi qui est menée entre les pays sur la question de la bande dessinée, qui était un peu un objet aussi d'exclusivité à une certaine époque, une arme très importante pour le Japon d'un côté, concurrencée aussi par le comics américain de l'autre. Il y avait aussi un peu à une autre échelle la bande dessinée belge qui existait en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces éléments-là de concurrence et de guerre culturelle, Paul Gravette? Vous avez... justement, choisi une cartographie un peu géopolitique.
Regardez
un
hebdomadaire comme Spirou aujourd'hui, les bandes dessinées qui y sont, pour la plus grande majorité cette semaine, ce sont des bandes dessinées qui croisent et l'espace d'expression de la franco-belge, la bande dessinée franco-belge, et l'espace d'expression de la mangasia.
Donc il n'y a pas de concurrence, tant mieux, il y a un métissage.
Non, il y a des métissages qui se font, et je pense que ça va aller toujours plus en ce sens-là, parce que les cultures ne peuvent pas s'ignorer les unes des autres. Aujourd'hui, c'est plus possible.
Merci Paul Gravette et Sarah d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Paul Gravette, je rappelle que votre ouvrage Mangasia, le guide de la bande dessinée asiatique, est disponible aux éditions Hors Collection. Et Sarah, vos œuvres sont à admirer. D'abord dans l'exposition aux merveilles de la bande dessinée d'Asie au lieu unique, mais aussi elles vont être publiées. Il y en a déjà beaucoup dans les rayons. Et vous nous avez parlé d'une grande sculpture aussi au Cambodge.
Oui, là, on sort de l'image et de la bande dessinée.
Mais on peut quand même
j'ai
l'annoncer.
J'ai initié donc effectivement une grande sculpture mémorielle. Qui fait 3 mètres de haut, en mémoire donc à ceux qui ne sont plus là, pour rappeler les souffrances endurées par les populations civiles le 17 avril 1975.
Merci d'avoir été parmi nous.
Merci
Mélisse.
Et on entendait Ponytail de Pyjama.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Éloge de l'adaptation, éloge de la paresse, des points de vue montrant la silhouette en costume de son personnage, suspendu sur un rocher face à la ville. Voici quelques exemples des créations que Philippe Ramette expose à l'occasion du voyage à Nantes. Des œuvres qui prennent leur place dans la ville et proposent aux spectateurs de faire un petit pas de côté. Philippe Ramette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici à Nantes pour le voyage. Je crois que ça a été une grosse année d'aller-retour pour observer comment mélanger ces sculptures à la ville et peut-être même parfois faire semblant qu'elles y ont toujours été.
Excusez-moi, j'ai un peu du mal à entendre.
Est-ce que ça a été une année faite d'aller-retour à Nantes ?
Oui, bien sûr.
Et avec l'idée d'avoir des sculptures qui parfois ont l'air d'avoir toujours été ici, dans la ville.
Je crois qu'en tout cas, avec, avec Jean Blaise et avec l'équipe du Voyage à Nantes, on a été assez attentif, en tout cas à suggérer effectivement cette idée que vous évoquez d'une possible intégration intemporelle. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire en sorte de suggérer et de donner l'impression que ces sculptures puissent avoir toujours été installées.
Alors,
aux endroits où elles sont installées.
Peut-être vous pouvez commencer par nous raconter ce qui se passe. Ce pas de côté qui a aussi donné son nom à cette édition, il y a un homme sur un socle.
Exactement.
C'est votre personnage.
Alors c'est effectivement mon personnage, puisqu'il se trouve que depuis maintenant une vingtaine d'années, j'accompagne physiquement ma production, aussi bien sous la forme photographique qu'au niveau de la sculpture. Donc je suis ce personnage récurrent, présent, en permanence, mis en scène, souvent dans différentes positions et sous différentes attitudes.
Alors il y a souvent ce que l'on reconnaît, ce costume, et quelque chose dans l'attitude qui a... Vous avez aussi étudié la position, la possibilité de faire avec votre corps quelque chose qui va permettre de servir ce message. Alors le pas de côté, c'est un pas suspendu en réalité, Philippe Ramette.
C'est un pas suspendu. Non, enfin, je pense que c'est littéralement un pas de côté. Alors, le pas de côté, je crois, dénote d'une attitude mentale particulière. C'est-à-dire que je pense que c'est un geste positif.
C'est la digression ? C'est le petit détour ?
C'est le petit détour mental, en tout cas. Moi, c'est surtout ce qui m'intéresse dans mon travail, au-delà de la position physique, qui est suggérée aussi bien par mes photographies que par mes sculptures. Il y a effectivement peut-être ce paradoxe qui peut apparaître comme étant surprenant entre cette pose qui est une pose physique, qui implique quelquefois une mise en déséquilibre. Donc on a la possibilité d'interpréter visuellement dans un premier temps ces différentes poses, mais au-delà de ça, de cette attitude physique, ce qui m'intéresse moi, l'interprétation mentale que l'on peut faire, bien sûr, de ce type de pose. Je pense, par exemple, à l'éloge de la discrétion.
L'éloge de la discrétion, il faudrait peut-être décrire cette sculpture blanche contre le mur.
Alors, c'est une sculpture qui, en fait, contrairement à l'idée entendue de la sculpture qui voudrait qu'en général, la sculpture se positionne d'une manière optimale en termes de visibilité. Donc, en général, on place les sculptures de manière à ce qu'elles soient vues. Là, en l'occurrence, cette sculpture, peut-être à l'absurde, est installée sur un socle qui est contre un mur. Et cette sculpture reprend une pose, je dirais, presque cinématographique dans ce désir, quelquefois, que dans certains films, on va dire,
c'est l'image de l'espion.
Un personnage puisse être compris comme étant un personnage furtif, pardon, et puis surtout qui recherche paradoxalement cette discrétion qui est contredite par l'idée même de la discrétion, et surtout de ce qu'on souhaiterait et de ce qu'on demande au principe de visibilité d'une sculpture.
Alors, il est à la fois sur un socle, sur un promontoire, et en même temps, il se fond dans ce mur blanc.
Exactement.
Et c'est encore votre silhouette, mais votre silhouette, en quelque sorte, effacée.
Alors, exactement. C'est une silhouette simplifiée, pas vraiment effacée, mais en tout cas simplifiée, peut-être un peu plus impersonnelle que, par exemple, pour l'éloge du pas de côté. Juste, il faut savoir, mais je ne vais pas donner non plus trop d'informations, mais que cette silhouette, pour parler de l'éloge de la discrétion, fait une référence directe à mes dessins, les dessins tels que je peux les réaliser, qui souvent représentent des personnages hommes ou femmes, qui sont des personnages sans caractéristiques reconnaissables. C'est-à-dire, en gros, vous avez employé le terme de silhouette, et c'est exactement comme ça que moi j'évoque ce type, en tout cas, de représentation. Ce sont des silhouettes.
Alors, il y a la manière dont vous travaillez. Peut-être que vous allez pouvoir nous donner plus de détails là-dessus, Philippe Ramette. Ça démarre souvent par des dessins, des croquis. Vous travaillez en collaboration, souvent.
Oui. Alors,
avec un photographe.
Voilà. Alors, tout projet, pour moi, part d'un dessin. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Le dessin est pour moi une manière de fixer l'intention du projet. Le dessin est pour moi aussi une manière de clarifier l'intention, de simplifier l'intention à nouveau, et surtout de me débarrasser de ce qui me semble inutile au départ de tout projet. C'est-à-dire qu'en général, tout projet part d'une intention un peu chargée de différentes choses. Le dessin me permet d'éliminer les éléments qui me semblent être en trop, on va dire.
Alors, c'est une pensée, le point de départ ? Est-ce que c'est une pensée ?
C'est une idée ? Le point de départ est une idée, une intention, qu'en général, je laisse germer pendant quelquefois assez longtemps. Par exemple, l'éloge du pas de côté, c'est un projet que j'ai laissé mûrir, j'espère, pendant un an ou deux, jusqu'à ce que... En gros, pour moi, je fonctionne avant tout projet par image mentale. Je crois comme beaucoup d'artistes, d'ailleurs. Et en fait, à partir du moment où l'image mentale que j'ai laissé mûrir me semble évidente, subjectivement, pour moi, là, je passe au stade du dessin. Et le stade du dessin a plusieurs vertus, j'espère. Bon, il y a la qualité, quelle qu'elle soit, en tout cas du dessin tel que je peux les faire. Mais surtout, le dessin est pour moi la première étape de la transmission de mon projet aux personnes qui vont accompagner la réalisation de ce projet. Vous évoquiez, je crois, tout à l'heure la partie photographique de mon travail. Et il est vrai que, bien sûr, je travaille...
En collaboration
C'est pas une collaboration, mais je travaille en tout cas avec un photographe qui s'appelle Marc Dommage, qui est avant tout un grand ami et qui est extrêmement généreux avec moi dans l'accompagnement qu'il peut faire de mon travail. Mais je tiens quand même à préciser que c'est pas vraiment une collaboration. C'est-à-dire que, et c'est là où le dessin a une importance particulière. C'est-à-dire que le dessin me permet de suggérer à Marc Dommage le cadrage que je souhaite, l'ambiance générale que je souhaite.
Il va participer à sa réalisation.
Et voilà. Et c'est là où le dessin, à nouveau, est absolument important et essentiel pour moi, parce que ça me permet, effectivement, de contrôler, en tout cas, l'intention du projet.
Alors, on retrouve, Philippe Ramette, de même que dans vos sculptures, il y a tout un processus de, d'abord, la silhouette, puis peut-être en effacer quelque chose, l'étude aussi de la position, etc. Dans le procédé que vous décrivez, il y a l'idée première, et puis le moyen d'y arriver. Et ce cheminement-là, il est intégré au résultat. Dans le résultat, on ne comprend pas forcément les solutions que vous avez trouvées, mais dans les photos, on voit qu'il y a un truc, quelque chose qui a permis d'avoir cette photo renversée, d'avoir la mer à la verticale, il y a des solutions trouvées. Et ça fait partie aussi du cheminement, du procédé.
Exactement. Alors, il est pour moi important de préciser que je me considère comme un sculpteur. Et que le travail photographique que j'ai pu développer pendant quelques années est un travail qui est directement issu de mon travail de sculpture. Et vous pointez effectivement des choses extrêmement justes, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, contrairement peut-être aux apparences premières, on peut avoir l'impression que ces photographies sont réalisées avec l'intervention d'un outil numérique, ce qui n'est absolument pas le cas.
Elles ne sont jamais retouchées. Hein.
Elles ne sont absolument jamais retouchées. Par contre, effectivement, il y a un truc... Et ce truc passe par la réalisation de ce que moi j'appelle des prothèses, qui sont en fait des structures métalliques qui me permettent d'être réellement dans la position que va dévoiler et montrer la photographie au final. Et c'est en ça que pour moi il y a un lien extrêmement fort avec mon travail de sculpture, c'est-à-dire que même si dans la partie photographique la sculpture est invisible, et c'est justement la fonction et ce que l'intérêt que je trouve dans ce travail photographique, le rôle de ces structures métalliques, de ces prothèses, à nouveau, est un rôle absolument essentiel.
Donc ce que vous appelez la sculpture dans la photo, c'est la fabrication de la prothèse qui est la solution à la réalisation de cette photo.
Exactement, exactement. Et ça me permet aussi peut-être de développer un petit peu sur la manière dont je peux travailler. Alors effectivement, bien sûr, Marc Dommage a un rôle absolument essentiel dans mon travail photographique. Mais il y a aussi, par exemple, je travaille aussi avec un designer qui est aussi un grand ami au même titre que Marc Dommage, qui accepte d'accompagner techniquement la réalisation des prothèses. En l'occurrence, là, par exemple, pour la photographie que nous avons réalisée pour le voyage à Nantes...
Peut-être qu'il faudrait la décrire un peu pour qu'on comprenne sur ce rocher.
Oui, alors cette photographie montre un personnage de dos. Bon, c'est moi, mais c'est pas...
C'est à nouveau, personnage. C'est
pas... Enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais en fait, il est absolument pas important de savoir que c'est moi qui suis le modèle de mon propre travail. même si pour moi c'est une sorte de signature, mais j'espère une signature discrète, paradoxalement, parce qu'effectivement je suis quand même présent sur toutes les photos, donc la discrétion elle n'est pas forcément très décelable.
Sauf que vous êtes au service de la photo, votre corps est un outil parmi d'autres.
C'est exactement comme ça que moi je crois il faut voir les choses. C'est-à-dire que pour moi, il m'a semblé évident à un moment que je devais être l'accompagnant de mon propre travail. C'est-à-dire que ça m'aurait quelque part gêné de faire appel à des modèles différents. Pour moi, c'est la moindre des choses. Voilà. Ça s'est révélé comme une évidence. Et cette évidence, en tout cas, je la poursuis depuis maintenant un peu plus de, malheureusement, 25 ans, à peu près.
Pourquoi malheureusement ?
Parce que le temps passe. Mais je sais plus ce qu'on disait d'ailleurs.
Mais c'est pas grave, on va continuer. Quand on se promène dans ce voyage à Nantes, on peut trouver plusieurs de vos sculptures. Alors, dans les sculptures qui sont réalisées, c'est vrai que quand on les observe, elles se fondent dans la ville. On se dit que finalement, ce pied qui reste en l'air ou cette demoiselle qui tente de grimper, qui s'est arrêtée au milieu de son mouvement, en tout cas.
Et là, n'est pas moi, hein, je tiens à le signaler.
Oui, bien sûr. On se demande quel a été le truc pour trouver justement la solution même technique et concrète. Et Philippe Ramette, c'est une démarche un peu magique aussi que de découvrir l'envers, justement, cette face, ce mystère du procédé artistique, même concret, de la fabrication de la prothèse, qui en fait mène à un imaginaire qui n'est pas la réalité.
Là, par exemple, pour le voyage à Nantes, avec Jean Blaise, nous avons proposé donc de montrer un film qui accompagne dans l'exposition au passage Sainte-Croix les photographies, la présentation des photographies. Ce film est un film qui ne m'appartient pas, c'est pas quelque chose que j'ai réalisé, c'est à nouveau un ami, Guillaume Allaire, qui a réalisé ce film. Mais ce film a, je crois, pour mérite de montrer l'envers du décor, de montrer c'est une succession de making-of des différentes photographies et montre quelque part la réalité de la prise de vue.
Avec cet exemple de la photo à Hong Kong, peut-être.
De la photo, pardon.
À Hong Kong, cette photo prise dans la mer, peut-être vous pouvez nous en raconter l'histoire pour qu'on comprenne.
Alors,
en quelques mots.
C'est très compliqué avec un grand plaisir en tout cas, mais c'est très compliqué de raconter très brièvement. Par exemple, pour la photo de Hong Kong, ça a été un travail de préparation de 2 ans environ. Ça a été très compliqué pour obtenir les autorisations. Mais ce processus de préparation et de conception d'un projet m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui suit dans la rapidité d'exécution. Je suis quelqu'un, je crois, qui est plutôt... Qui accepte en tout cas de laisser le temps de maturation de tout projet. Et effectivement, la photographie prise à Hong Kong en est vraiment, pour moi, le moment peut-être le plus emblématique de ma manière de travailler. C'est-à-dire que la grande majorité du temps, tout projet que je peux concrétiser vient des hasards de rencontres dans ma propre vie. Là, donc, pour la photographie de Hong Kong, j'ai rencontré... À une certaine époque, une femme qui s'appelle Claire Berger-Vachon, qui était la directrice de l'Alliance française à l'époque, et qui, en fait, a fait, je dirais, elle, le plus gros du travail de préparation en amont. C'est-à-dire que... Mais à un moment, donc, la réalisation de cette photographie, s'est avérée évidente à réaliser.
Alors vous, dans ce balcon fabriqué, un balcon prothèse... Justement.
Alors là, c'est un peu plus qu'un balcon, parce qu'en fait, pour réaliser cette photographie, comme on le voit d'ailleurs sur ce documentaire, nous avons réalisé une sorte de structure flottante que nous avons installée, donc qui est réellement flottante, comme un petit bateau, on va dire, un petit bateau assez inconfortable, mais qui permettait donc effectivement mon installation autonome, dissociée d'un support qui serait fixe. La grande difficulté pour Marc Dommage, pour reconfirmer le rôle absolument essentiel qu'il a dans l'accompagnement photographique de mon travail, a été de saisir le juste moment où ce balcon, cette structure flottante, était absolument parallèle avec la ligne d'horizon.
Pourquoi ? Puisque la photo est en quelque sorte, en tout cas, renversée. L'idée, c'était de renverser le paysage et d'avoir cet objectif, Philippe Ramette, que l'on retrouve souvent dans vos photos, exactement. Un objectif un peu magique, c'est-à-dire de réussir à faire ce que normalement les lois physiques ne permettent pas, mais sans truquer numériquement.
Merci, parce que vous me permettez de rectifier. Quelquefois, quand je peux aller sur Google, je vois que mes photographies sont placées des fois dans des sens absolument différents, des sens... Que je considère comme étant l'essence finale. Et donc il faut savoir que toutes mes photographies sont systématiquement à la verticale. Et que donc la difficulté à nouveau de cette photographie avait été de saisir le bon moment. Il faut savoir que, en tout cas, pour cette, je garde un grand souvenir de cette photo en particulier parce que nous avions deux matinées de prise de vue, donc ce qui était très court. Et en fait, je pense dans mon souvenir que Marc Dommage a dû faire une centaine de photographies et juste une image réunissait tout ce que j'avais moi, en tout cas, imaginé dans le dessin préparatoire. Donc à chaque fois, en fait, il y a une sorte, pour ces prises de vue photographiques, il y a une sorte de, j'aime pas le mot challenge, mais en tout cas de pari. C'est-à-dire que il y a l'acceptation que des difficultés ou des imprévus que je n'avais pas prévus puissent peut-être éventuellement nourrir la photographie. Pour celle du balcon à Hong Kong, il y a eu une grande part de hasard. Et que moi j'estime être un hasard miraculeux, c'est-à-dire que la lumière zénitale telle qu'on l'a sur la photographie, qui n'est absolument pas retouchée,
donc la lumière qui vient du dessus,
voilà, exactement, est due à un pur hasard, parce que ce jour-là il y a eu une sorte de trou dans les nuages et qu'on a eu cette lumière au moment où on faisait la photographie. Et puis il y a cette vaguelette, pour ceux qui ont vu la photographie, il y a une vaguelette qui vient frapper le bord du balcon, de l'ouverture dans la mer, qui est absolument, bien sûr, qui n'était absolument pas prévu. Donc voilà.
Philippe Ramette, quand on se promène dans Nantes et que l'on arrive dans ce passage et qu'on découvre votre silhouette presque un peu cachée, en tout cas mêlée au décor, puisqu'elle est sur le plafond, vous êtes, en tout cas votre personnage est allongé, les bras derrière la tête, cet éloge de la paresse. Justement, il y a cette recherche de ce que l'on peut faire avec le réel. On se demande ce que vous faites avec ces contraintes du réel, puisque d'un côté, vous essayez de les dépasser, de trouver des astuces pour qu'il y ait un élément autre qui apparaisse et qu'on arrive à faire des choses impossibles, normalement impossibles. Et en même temps, il y a la volonté de se fondre dans la ville.
Oui, plus particulièrement pour l'éloge de la paresse. Effectivement, il y avait en tout cas cette idée ponctuellement pour le voyage à Nantes, d'imaginer son installation au passage où elle est installée.
Mais non, c'est l'autre. Oui.
Et que c'est un lieu absolument magnifique de Nantes, c'est un lieu de passage, c'est un lieu d'hyperactivité, et que justement, il nous a semblé que cette mise en discrétion de cette culture puisse aller avec le sens qu'elle semble en tout cas tenter de transmettre, à savoir cet éloge de la paresse. Quand on veut être mis en situation de paresse agréable et constructive, en général, on ne la fait pas au vu et au-dessus de tout le monde et on se met légèrement en discrétion.
Alors là, la discrétion, c'est le plafond, hein, c'est cette manière de se fondre aussi dans ce blanc qui existe.
Tout à fait.
Est-ce que l'exposition dans une ville, alors celle de Nantes en l'occurrence, c'est particulier pour vous dans votre travail? Vous avez eu d'autres expériences d'exposition dans des centres commerciaux, Galerie Lafayette, il y a eu ces expériences-là, Philippe Ramette. Est-ce que, justement, être exposé dans une ville, dans un espace urbain et public, ça représente une autre forme de défi?
Alors c'est pas forcément un défi.
Et des contraintes.
Et justement, alors moi je dirais le contraire de contraintes. C'est-à-dire que pour moi, il me semble que par exemple l'éloge de la paresse que nous évoquions à l'instant à Nantes est présentée pour la première fois de la manière la plus idéale. Elle a pu être présentée par exemple dans des espaces de galeries, dans des centres d'art, pour des expositions, mais à chaque fois, moi j'avais toujours cette sensation d'une légère frustration, c'est-à-dire qu'en fait le paradoxe est que je suis amené à faire bien sûr des expositions, c'est mon travail, le gros de mon travail, mais là en fait, grâce au voyage à Nantes, il y avait un scénario d'installation, d'accrochage qui participait un peu plus au sens que je souhaitais idéalement donner à ces différentes pièces. J'évoque l'éloge de la paresse, mais l'éloge de la transgression, par exemple, qui est installée au cours Cambronne, est installée d'une manière assez classique, on va dire, enfin assez simple, assez classique.
Dans ce parc, justement.
Dans ce parc, voilà, qui est extrêmement, pour les Nantais aussi, un lieu extrêmement connoté, enfin marqué plutôt. Et puis, on a aussi, c'est là aussi où le voyage à Nantes invite les artistes propose aux artistes en tout cas d'élargir les possibilités de présentation, de démonstration de leurs pièces. C'est-à-dire que là, effectivement, au cours Cambronne, on a forcément pris en compte la présence de cette sculpture, je trouve magnifique, du général Cambronne, et que ça nous a nourri, en tout cas, dans la proposition d'installation de ma modeste pièce, qui est donc l'éloge de la transgression, et qui, à mon avis, qu'il faut voir aussi en vis-à-vis avec cette sculpture du général Cambronne, qui est une sculpture très martiale, avec une pose très assumée, très, très démonstrative, et puis cette petite fille qui est légèrement en recul, qui s'installe, puisque pour moi c'est le sens de lecture qu'il faut avoir de cette pièce,
elle ne descend pas, ce lieu.
Elle monte sur ce socle, elle tente d'accéder à ce socle et elle tente d'accéder finalement à la représentation d'elle-même.
Alors il y a la manière dont les sculptures se fondent avec les autres œuvres d'art qui se mélangent à la ville, la manière dont vous imaginez qu'elles se marient à l'espace public, mais il y a aussi la manière dont le public va pouvoir les voir ou même se les approprier, puisque votre pas de côté fait l'objet de nombreuses photographies sur Internet.
À mon
grand
plaisir, j'en suis vraiment très très ravi, parce que j'y vois le signe, c'est peut-être très prétentieux ce que je veux dire, mais d'une sorte d'intégration, en tout cas, et surtout d'acceptation. Plus particulièrement, je pense, pour cette sculpture, c'est vrai que vous évoquiez les différents allers-retours que j'ai pu faire durant l'année écoulée. Effectivement, à mon grand plaisir, c'est toujours un très grand plaisir de venir à Nantes. Mais effectivement, ça m'a permis, et ça c'est un grand luxe, quand une exposition propose ça à un artiste, c'est-à-dire le luxe de l'observation, le luxe de... Donc j'ai beaucoup fréquenté cette place du Bouffay. Et donc ça m'a permis, par exemple, de voir comment les gens qui fréquentent cette place, comment ils la pratiquent, les différents accès.
Le fait qu'on s'assoie sur le socle.
Le fait qu'on s'assoie sur le socle. Alors ça, c'était quelque chose aussi que nous avions souhaité, qui m'apparaissait comme étant important, le fait que ce ne soit pas une pièce fermée, comme peut-être la sculpture du général Cambronne, qui est une pièce protégée par des grilles. Là, on souhaitait, et je souhaitais vraiment qu'on puisse... éventuellement, en tout cas, s'asseoir sur ce parterre, qu'il puisse avoir cette possibilité d'une sorte de rapport direct avec la sculpture et avec l'idée, peut-être, qu'on peut se faire d'une œuvre ou d'une sculpture.
Il y a l'idée que l'œuvre d'art, Philippe Remette, en tout cas vos œuvres d'art, elles ne sont pas fragiles. On peut les livrer au public dehors.
Alors, je mettrai un petit bémol.
Mais c'est l'idée, puisque vous acceptez finalement qu'elles soient approchées, un peu touchées. Alors, elles sont touchées aussi parce que ce qui est fascinant, c'est ce pas suspendu en l'air, qui donc permet des effets d'optique et des photos en série sur les réseaux sociaux. Mais on a le sentiment que vous aimez bien ça, justement, qu'elles soient un peu approchées, touchées.
C'est pas forcément la recherche de ça, mais en tout cas, déjà ça permet de voir à quel point le bureau d'ingénieurs qui a validé la solidité de la pièce ne s'est absolument pas trompé, parce que là, grâce à la Coupe du Monde, on a eu quand même la possibilité de vérifier, en tout cas, que cette sculpture était solidement ancrée, en tout cas, sur son socle. Et puis au-delà de ça, et c'est là où justement, à nouveau, la participation à une exposition telle que celle du voyage à Nantes est pour moi un luxe extrême. C'est-à-dire que souvent, le plus souvent, dans des galeries ou dans des centres d'art, en fait, il y a une distance de fait qui est mise entre les sculptures présentées ou les photographies, quel que soit l'objet, présentées avec le public. Là, effectivement, pour moi, c'est là encore, à nouveau, quand j'évoquais tout à l'heure cette sorte de comme si ces pièces qui avaient eu déjà, pas le pas de côté, mais d'autres sculptures qui sont présentées, avaient été présentées jusqu'à maintenant dans des situations, des conditions particulières, mais jamais effleurant en tout cas une sorte de finalité dans leur principe. Là, effectivement, c'est pas une confrontation, mais en tout cas la possibilité d'imaginer que cette sculpture ou ces différents objets présentés dans un espace public, c'est pas qu'elles m'échappent, mais en même temps, elles ne m'appartiennent plus vraiment.
Elles trouvent un autre ancrage, c'est le cas notamment même de celles que vous avez conçues pour ça. Je pense à l'éloge de l'adaptation, c'est cette sculpture dont le socle à l'extérieur du chapeau du château de la duchesse, justement, Anne, se trouve sur un talus.
Exactement, oui.
En pente.
Oui.
Et a été conçue pour s'intégrer à cette inclinaison. Et
exactement, elle a été conçue pour s'intégrer à cette inclinaison particulière de ce lieu qui n'aurait pas été normalement le lieu qu'on aurait choisi pour la présentation d'une sculpture. Et je trouvais que, là encore, enfin, on réinvoque différentes notions qui me semblent importantes dans mon travail. C'est cette idée que Cette adaptation, elle passe visuellement par cette sculpture qui semble avoir retrouvé un équilibre contredit par le déséquilibre du socle.
Alors, déséquilibre du socle et peut-être du modèle, puisqu'on a le sentiment, d'ailleurs c'est une question qu'on se pose quand on est devant, est-ce que le modèle finalement est en déséquilibre pour avoir l'air lui aussi en équilibre ?
Ah non, il me semble que quand on voit la sculpture, au contraire, la sculpture et donc le modèle
a retrouvé son équilibre. Donc était probablement en déséquilibre pour faire la sculpture au départ, avant qu'elle soit posée.
Vous savez, moi j'imagine toujours avant tout projet un scénario. Le scénario que j'ai imaginé avant la réalisation de cette sculpture n'est pas vraiment le même que celui que vous suggérez. Mais par contre, on peut imaginer que construisons une histoire assez simple. Cette sculpture avait pu être installée sur un endroit tout à fait normal et la sculpture avait la position telle qu'elle aurait eu si le socle avait été absolument normal. Et là, il se trouve que cette sculpture se réadapte, semble s'être réadaptée en tout cas au déséquilibre provoqué donc par l'inclinaison du sol.
Il y a un travail savant qui est fait, on le voit lors de cette réalisation, enfin en tout cas quand on voit cette sculpture-là, justement cet éloge de l'adaptation, il y a un travail presque scientifique de quête de la position qui va corriger, qui va retrouver quelque chose. Comment vous travaillez ? Vous êtes le modèle, donc...
C'est peut-être là encore où, quelque part, ma participation me semble à chaque fois, en tout cas, ça n'a rien à voir avec un ego disproportionné. C'est-à-dire, moi je me moque à nouveau de savoir que... Enfin, il n'est pas important de savoir que c'est moi. Par contre, effectivement, quand on a travaillé sur l'éloge de l'adaptation, je me suis même pas posé la question. Je me suis mis, moi, dans la situation de cette sculpture. Et donc
en déséquilibre ?
Voilà, exactement. Et donc en gros, la reproduction du geste ou de l'attitude de cette sculpture est la reproduction que j'avais réellement dans mon atelier, dans le secret de mon atelier, quand on a construit un faux socle dont l'inclinaison correspondait à l'inclinaison de l'endroit où il est installé.
Mais ça passe aussi par une étude corporelle, alors comme le fait un sculpteur aussi lorsqu'il sculpte, mais là, vous sculptez votre corps aussi pour qu'il soit capté... par l'ordinateur, par les machines et pour que le modèle...
Par un scan, là, en l'occurrence, oui. Oui, effectivement, mais c'est là encore où à nouveau, il me semble que cette participation physique de ma part à l'intérieur de mon propre travail me semble essentielle. C'est-à-dire que ça me permet, je crois, de saisir peut-être une expression particulière que je n'aurais pas si je dirigeais quelqu'un.
Alors il y a, même dans votre modèle, qui n'est pas tout à fait vous, mais qui est une forme d'expression de vous quand même, Philippe Ramette, il y a quand même cet humour et ce sourire qui passe régulièrement, ou cette ironie qui passe aussi à travers ce visage, dans les titres de vos œuvres, que ce soit les éloges, mais aussi ce que font les objets, la manière dont ils s'autonomisent, etc. Il y a un humour qui passe toujours dans ce titre-là.
Merci de saluer en tout cas, j'espère, la présence de l'humour, parce qu'il me semble que c'est un filtre extrêmement... C'est, à mon avis, le filtre principal nécessaire à la compréhension ou en tout cas au désir éventuel de lecture de mon travail. Oui, pour moi, c'est un filtre extrêmement important. Il y a aussi, quand je suis amené à parler de mon travail, j'évoque plus particulièrement pour certaines pièces ce désir d'accéder à un point de vue différent, qui peut-être pourrait être un peu plus poétique que le point de vue habituel que chacun de nous, au-delà de moi, chacun de nous pose sur le monde. Et ça mise sur le fait qu'effectivement, passant par l'humour...
Par ces clins d'œil presque cinématographiques, hein, on imagine justement ce personnage moulé de blanc, il évoque aussi tout un imaginaire cinématographique assez fort.
Exactement. Permettez-moi d'acquiescer à nouveau d'être d'accord avec vous sur toutes vos réflexions. Mais je crois être quelqu'un de très... nourri en tout cas par le cinéma, les ambiances cinématographiques, mais à nouveau, il y a 2-3 ans, j'ai eu la chance d'être invité à participer à l'invitation de Fanny de Chaillet, une chorégraphe très connue en tant que co-chorégraphe à un spectacle qu'on a conçu ensemble. Et j'avoue que ce moment a été un moment extrêmement nourrissant pour moi, qui, je crois, a nourri les pièces que j'ai pu faire après cette expérience. C'est-à-dire le fait d'intervenir... pas toujours très habilement, mais en tout cas d'intervenir sur le geste des danseurs et des danseuses, je crois, m'a permis de nourrir en fait le travail photographique que j'avais pu réaliser en amont. Et je pense que, par exemple, ces silhouettes, les silhouettes telles qu'elles sont présentées, ou les sculptures, les loges du pas de côté, sont nourries de cette expérience qui a été la mienne donc il y a 4-5 ans.
Merci Philippe Remette d'être venu aujourd'hui dans merci le cadre du festival Voyage à Nantes, je le répète, qui présente plusieurs œuvres qui seront exposées un peu partout dans la ville jusqu'au 26 août prochain. Quant à nous, je nous donne rendez-vous demain pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Anne Toscane Viudès et Anne-Olivia Marchaison. À la réalisation, c'est Nicolas Berger. À la technique, Mathieu Perrault, Yann Fressy, Marc Garven. Et à la coordination, Rémi Gouriou. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.